Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des crises dans le couple. Sont-elles bonnes? Sont-elles le signe de la fin? Comment passer au travers d'une crise? Ce sont des questions pertinentes qui méritent d'être répondues dans le cadre de ce tour d'horizon. Le sujet du jour est inspiré d'un article publié par le Journal de Montréal intitulé « Les crises inévitables ». Voici ce que cet article nous apprend. Les couples heureux négocient des ententes à double gagnant là où les malheureux veulent imposer leur choix. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ça qui fait toute la différence. Les couples heureux négocient des ententes à double gagnant. Comme le disait à un moment donné mon épouse, ça prend deux personnes pour danser le tango. Et je poursuis. Chaque crise, même surmontée, hypothèque l'amour des couples malheureux, mais renforce l'intimité des couples heureux et les renforce pour affronter la prochaine crise. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. C'est certain que dans tous les couples, il va y avoir des crises. Parfois des crisettes, d'autres fois des crises de moyenne intensité et à certains moments, eh bien, il y a des crises de haute intensité. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a un autre article qui est intéressant qui nous parle des 7 erreurs d'un couple. Et le titre s'intitule « Les 7 erreurs d'un couple ». Lisez cela, c'est très instructif. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait face à des crises, eh bien, il y a des situations problématiques qui sont mises en lumière. Il ne faut pas avoir peur des crises. Elles nous déstabilisent, elles nous confrontent, elles démontrent parfois le pire de nous. Mais faisons attention, il y a des moyens qui nous sont donnés qu'on peut utiliser pour passer au travers d'elles. Je vous lis quelques extraits de cet article. Il y a certains éléments que je vais passer rapidement parce que c'est redondant, on a déjà entendu parler. Et de toute façon, sur la plateforme ericlantier.net, vous pouvez consulter l'article intégralement. Les 7 erreurs d'un couple, lisez cela, c'est très instructif. Voici ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont demandé à 6 spécialistes du couple de recenser les scénarios qui conduisent à la rupture. 1. La fusion. Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est paradoxalement, les couples les plus fragiles sont ceux qui, au début de leur relation, vivent une symbiose absolue. Ils sont engagés très vite, très fort, branchés sur les besoins de l'autre. Ils jouent tous les rôles. Ils vont être amants, amis, parents, enfants. Ce qui arrive, ils sont enveloppés, on pense qu'ils sont à l'abri des turbulences du monde parce qu'ils vont vivre un peu comme sur une île déserte, jusqu'à ce qu'un élément déstabilisant vienne les perturber. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un changement de travail. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'ils vont vivre une situation, une sensation de lassitude et d'étouffement qui s'empare de l'un des partenaires. Et là, ce partenaire va prendre conscience que la sécurité qui était là, qui était présente, va faire place à de l'asphyxie. Et là, ça génère de la frustration, ça devient insupportable d'un côté. Et de l'autre côté, il y a un sentiment d'abandon qui prend place. Puis la plupart du temps, ces couples se séparent en se déchirant. Et ça, c'est malheureux, ça. Donc, c'est un couple où est-ce que c'est bien parti, mais à un moment donné, une situation arrive et là, leur fragilité est mise en évidence, est mise en lumière. Il y a aussi le refus de la différence. Ce qu'il faut considérer ici, c'est qu'un conjoint n'est pas un double. Très souvent, les gros conflits sont nourris au quotidien par des petits refus. Et tous ces refus-là vont témoigner, vont faire appel, si on veut, vont mettre en lumière un déni de la différence qui finit par faire du couple un champ de bataille ou un tribunal. Et c'est là qu'il faut faire attention, justement, d'apprendre à considérer d'apprendre à accepter la différence. Et ça demande un recul, ça demande un effort, ça demande un don de soi. Évidemment, le manque de communication, celui-là, je vais le passer. Un autre qui est intéressant, c'est le couple thérapeute. Ce sont en général des couples très solides au départ. Leur contrat inconscient, la plupart du temps, repose sur des attentes complémentaires. Guérir pour l'un, se sentir indispensable pour l'autre. Et c'est là, à un moment donné, parce que si, par exemple, celui qui avait besoin de thérapie, d'aide, de support, guérit, mais il n'a plus autant besoin de son thérapeute, de son médecin, de son guérisseur. Et encore une fois, ça produit une instabilité. Et ici, ce qui est fondamental, c'est que les rôles changent. Les rôles se modifient, s'altèrent. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a une crise qui survient dans le couple. Il y en a d'autres que je vais passer rapidement. Le manque de projet de vie, la paresse, le fatalisme. Et ça, le fatalisme, c'est souvent ce qui va amener la crise à tuer le couple. Parce que la crise doit trouver son aboutissement, soit par des solutions, soit par une autre façon d'exprimer son amour l'un pour l'autre. Mais c'est important de voir cette crise-là, non pas comme une fin en soi, mais comme un tremplin. Mais qu'est-ce que ça révèle, ces crises de couple-là? Eh bien, j'aimerais ça vous lire quelques extraits d'une réflexion de Monique Dupré-Latour qu'on trouve sur la plateforme uniondesfamilles.org et ça nous parle des causes psycho-affectives des crises. On nous dit ceci, « La crise est inévitable au sein d'un couple. Elle fait partie de la vie, sinon c'est la mort, du moins la mort psychique, la sclérose. Ce sont des manières de la gérer qui peuvent changer. » Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on nous dit ici que la crise libère des forces destructrices, des forces de mort, mais elle fait appel à la créativité pour prendre en compte ce qui vient d'apparaître. C'est tout là qu'est le défi, mesdames et messieurs. Parce qu'on nous dit également que la crise est un mouvement d'oscillation entre les forces de destructivité. Je continue. Il y a bien sûr une issue incertaine, mais cette recherche de nouveaux mécanismes de régulation est source de progrès et d'intégration de données nouvelles. C'est ce qu'il y a de positif dans la crise. Effectivement, je trouve que c'est tellement bien dit, parce que la crise est une étape de maturation dans la vie des individus, des couples, des familles, puis même des sociétés. Mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que la crise du couple se situe à l'articulation de l'événement et la structure du couple. L'événement révèle au moins en partie ce qui avait constitué le couple, le fondement du couple dans ses éléments conscients et inconscients, les caractéristiques du lien, spécialement les liens conjugaux. Et c'est pour ça que chaque crise de couple va venir révéler quelque chose, ce qui en est la souffrance, ce qui en est la richesse. Puis ce qu'on reproche souvent au conjoint, c'est ce pourquoi on l'a choisi inconsciemment. On va nous dire que certaines ruptures sont là pour éviter de se connaître soi-même, connaissance ressentie comme trop douloureuse. Mais ces ruptures-là vont nous entraîner dans des choix nouveaux qui vont être du même type que le précédent. L'événement intrinsèque ou extrinsèque va créer un déséquilibre dans le fonctionnement qui lui a précédé. En d'autres mots, quand il y a une crise qui arrive, eh bien c'est clair qu'il va y avoir un déséquilibre, c'est clair qu'il va y avoir une déstabilisation. Et là, le couple va réagir en cherchant sa solution. Ce qui nous est amené quand ils consultent ou quand ils se plaignent dans leur entourage, c'est le symptôme. Les disputes, les liaisons, la boisson, les difficultés sexuelles, le désir de rupture. C'est ce qui est sécrété par le couple pour faire face à l'événement et qui nous révèle sa structure sous-jacente, ses enjeux, ses choix. Par ailleurs, cette plateforme va nous apprendre que c'est dans la première relation d'avec la mère qu'on retrouve l'origine de bien des difficultés de couple. Et je vous invite à aller sur cette plateforme pour analyser davantage qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Maintenant qu'on a vu que la crise est inévitable et elle met en lumière la fragilité de notre couple, parce qu'on la croit solide jusqu'à temps qu'elle soit mise à l'épreuve, eh bien j'aimerais qu'on puisse voir des conseils pratiques ensemble. Comment faire face à la crise de couple? C'est ce que nous propose le site psychologie.com, psychologie avec un S. Eh bien, ce qu'on nous dit sur cette plateforme, c'est que les thérapeutes nous disent comment transformer une remise en question qui semble irréversible en une opportunité de rebond. Le mot d'ordre, gare à la précipitation. C'est important parce que quand on veut régler une situation qui perdure, une situation qui commence à nous irriter ou qu'on n'est plus en mesure de supporter, on veut sortir rapidement de cet inconfort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en premier? C'est de temporiser les décisions, faire du temps un allié. Il y a plus à gagner à tenter de comprendre ce que l'épreuve révèle. C'est un travail difficile à vous, Bénédicte, 48 ans. Il faut accepter d'avancer dans le brouillard et pas toujours au même rythme que son conjoint. C'est là qui est tout le défi. Vous allez me dire oui, mais dans certaines situations, ça perdure, il n'y a rien qui change. Et c'est là qu'on doit aller chercher de l'aide. C'est là qu'on doit faire appel à des ressources. Et là, vous allez me dire encore, oui, mais justement, je veux aller chercher de l'aide, mais il ou elle ne veut pas. Mais c'est là qu'on doit aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui va nous apprendre comment composer avec ça. Et c'est là également que toute la notion de foi et toute la notion de transcendance, tout cet aspect-là, c'est là qu'on voit le secours, le support et le soutien de Dieu dans nos épreuves. On nous dit également sur la plateforme, clarifier son intention, choisir ses confidents. C'est important parce que, en résumé, ce qu'on nous dit ici, c'est si vous commencez à ouvrir votre cœur sur les problèmes de votre conjoint, de votre conjointe, puis qu'à un moment donné, elle se repent, elle change d'optique, elle vous demande pardon, puis il y a des changements significatifs qui commencent à s'opérer. La personne que vous avez contaminée, eh bien, elle garde une mauvaise perception. Et surtout si vous ne lui avez pas expliqué qu'il y a eu des changements, que vous êtes touché, puis que ça avance. Alors, c'est important d'être sûr que lorsqu'on se confie aux bonnes personnes. On se confie à des gens qui ont une certaine discrétion, qui ont du moins le sens de la discrétion. Alors, c'est important de sortir du reproche aussi, de se méfier du tout dire, de faire attention avant de parler. Et des fois, on vit quelque chose ou on a fait quelque chose et on veut tellement tout dire pour tout régler et ce n'est pas toujours sage de le faire. Et c'est important aussi à ce moment-là d'aller chercher de l'aide. À ceci, Christophe Fauré, qui est un psychanalyste, va nous inviter à se méfier de l'idéologie de tout dire. Lui, ce qu'il dit, c'est ressortir les vieilles rancœurs, tenir l'autre au courant de ses nombreux revirements, ne peut aboutir qu'à le plonger dans l'insécurité. Il faut avoir la bienveillance d'exprimer ce qui est constructif, quitte à déverser ses états d'âme dans un cahier. Alors, c'est important d'avoir un effet de recul parce que sur le coup de l'émotion, parfois on peut en dire trop et malheureusement, ce n'est pas constructif. L'autre élément, c'est de faire preuve de créativité, se soutenir mutuellement. Alors, comme par exemple, il y a un couple qui, eux, ont institué dans leur relation, dans leur dynamique, le mardi soir comme étant la soirée café où est-ce qu'on met à jour tout ce qui ne va pas. Alors, ça leur donne une obligation de dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Le mardi soir, c'est réservé pour ça. Et c'est intéressant ça. Parce qu'à un moment donné, Barbara, elle se disait, mon conjoint ne me fait plus rêver. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, ce constat m'a obligé à prendre contact avec mes propres rêves et tenter de les vivre au sein de notre couple. Au début, c'était lui qui la faisait rêver, mais elle a pris conscience que, oui, mais ça, c'est un déclencheur pour m'apprendre, moi, à rêver. Puis de voir à ce que certains de mes rêves puissent être mis en pratique, puissent aboutir. Et donc, faire appel à un thérapeute, se pencher sur son enfance, ça aussi, c'est un élément important. Accepter l'incertitude, rester vigilant. Notre relation n'est pas idéale, mais elle doit être solide. Olivier affirme que sa femme et lui savent désormais désamorcer les disputes. Nous nous efforçons de comprendre ce que dit l'autre plutôt que de camper sur nos positions. Et ça, c'est majeur, mesdames et messieurs. Essayez de comprendre ce que dit l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut communiquer comme émotion, comme ressenti? Et ils vont donner deux exercices pour se remobiliser. Donc, la liste de mes envies. Ce que ça nous dit, c'est que dans la crise, tout ce que l'on met en œuvre en espérant de satisfaire son partenaire semble tomber à côté de la plaque. Tu sais, des fois, on essaye de faire des choses, puis ça ne marche pas. Par exemple, vous achetez des fleurs, puis elle n'aime pas les fleurs, vous... Là, vous me dites, waouh, mais ça ne marche pas. Alors, Isabelle Constant, qui est psychothérapeute intégrative, encourage ses patients à établir la liste de ce que chacun attend de l'autre. Pas dans l'abstrait, par exemple, pas dans « je veux qu'il m'aime plus ». Non, non. Concrètement, par exemple, qu'il me donne des câlins, qu'il me complimente, qu'il m'amène un petit cadeau, qu'il m'amène au restaurant. Donc, cette liste, qui n'a pas de valeur d'obligation, fournit une boîte à outils qui aide à exprimer son amour dans le langage de l'autre. Ça donne des points de repère, ça donne des suggestions. Ça, vous pouvez faire ça le mardi soir, par exemple. Et l'autre élément pratique, le blason de notre couple. Donc, imaginez que pour vous dessiner un chandail et puis à ce moment-là, vous dessinez ou colorez certaines parties qui vont exprimer, par exemple, certains éléments de votre relation de couple pour voir où est-ce que vous êtes rendu. Par exemple, vous dessinez une manche rose et puis il y a peut-être un petit poisson comme ça dedans. Donc, c'est comme un poisson qui est dans l'eau, mais qui vit le bonheur quand c'est rose. Hein, c'est joyeux, c'est merveilleux. Ou il y a peut-être le collet va être noir, il y a un petit côté sombre. Et ça, vous pouvez exprimer, il y a un petit côté qui vous rend mal à l'aise. Et ça devient comme un déclencheur pour parler. J'espère que cette émission, par ses conseils, par ses suggestions, par ses idées, vont vous amener à réfléchir et à dialoguer avec votre conjoint ou votre conjointe ou avec des amis pour parler du sujet. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas avoir peur de la crise, mais d'aller chercher de l'aide si justement vous ne voyez pas le bout du tunnel. C'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!